palla della difesa al Milan.
Buona partita per il Milan, la palla della Milan, che buona palla per Carvalho, con la vita di Dalmor.
L'avant-match avec Hakim Tamim.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'émission sportive bien sûr, le football européen à la une, le mondial aussi et le football africain, notre ami Abdrahim à la réalisation. On va revenir sur le Classico, mercredi dernier, le Barça et le Real, 0-0 à l'arrivée. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette confrontation? Peut-être une idée déjà, bien sûr, le Real qui a dominé cette équipe catalane mais n'a pas gagné en terre catalane. Donc, on va parler également du mondial des clubs. Vous le savez, demain c'est la finale Flamengo face à Liverpool. Liverpool qui tentera de gagner pour la première fois cette compétition. On ira en Allemagne, bien sûr, le Bayern, Munich et également les deux équipes qui luttent pour le titre symbolique de champion d'automne. L'équipe qui termine en tête à l'issue de l'épreuve ou bien sûr à l'issue de la manche aller, Leipzig, et également l'équipe du Borussia Mönchengladbach, l'Angleterre, le football italien aussi, sans oublier la France et l'Afrique avec Pyramide, de l'équipe qui monte en Afrique, une équipe égyptienne qui vient de remercier son entraîneur de sabre. Et pourtant, eh bien, le technicien français a réussi de belles choses avec cette équipe égyptienne. D'abord, le football mondial et également le Classico. Frédéric Hermel, notre consultant pour le football espagnol à Madrid. Bonsoir Fred.
Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. Madrid sous la pluie, il fait noir, il pleut, c'est triste. Heureusement, je suis en direct avec toi, mon cher Hakim.
C'est la même chose à Tanger.
C'est mon petit soleil.
Il y a du vent, il y a de la pluie également. Pas qu'à Tanger, l'ensemble du Maroc. Également, peut-être celui qui sera futur champion du monde des clubs avec Liverpool qui affronte Flamengo. Eh bien, c'est Aurélien de Vernois. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Hakim, bonsoir Fred et bonsoir à tous. Écoutez, il fait mauvais partout, hein, finalement.
Voilà, donc c'est la pluie, c'est l'hiver et c'est normal. Donc tout à l'heure, vers la fin de cette première partie, eh bien on appellera David de Lortolari, notre monsieur football allemand, pour cette dernière journée du championnat en Allemagne, la dernière journée de la phase aller, bien sûr. Allez, deux rendez-vous, ce qui arrive bien sûr le mondial des clubs dans un instant, mais d'abord retour sur le Classico. Je disais tout à l'heure, Fred, l'impression c'est que le Real Madrid peut-être aurait mérité de l'emporter. Mais surtout, on est sorti avec des doutes à propos de cette équipe du Barça et on l'a dit et redit plusieurs fois dans cette antenne, sur cette antenne et à plusieurs reprises, Fred.
Oui, moi je pense que c'était un très beau classico. Voilà, les gens, je sais pas ce qu'ils attendent, comme si les gens voyaient des chefs-d'œuvre tout le temps, notamment en France. J'ai entendu des critiques par rapport à ce match, mais enfin, quand on voit le niveau technique des deux équipes, quand on voit tout ce qui s'est passé sur la pelouse, oui, c'était un beau classico, totalement dominé par le Real Madrid, surtout en première période, où vraiment le Barça n'a été qu'un jouet entre les mains du Real Madrid, et je pense que on peut dire officiellement que le Barça de Guardiola et de Cruyff, le Barça obsédé par la possession de balle, le Barça qui gagnait 5-0 à l'extérieur avec 75% de possession, bah ce Barça-là est mort. Aujourd'hui, c'est une équipe qui joue en contre, c'est une équipe qui joue, qui essaie de marquer sur coup de pied arrêté, qui mise sur son petit génie Messi pour essayer de sauver ses matchs, alors que l'équipe qui a la possession, l'équipe qui domine, c'est le Real Madrid. Enfin, ça a été clair pendant cette rencontre. Quand on voit les chiffres de possession du Barça, qui sont en plus très très trompeurs, parce que le Barça avait surtout la balle dans son camp, parce qu'on a surtout joué dans le camp du Barça. J'insiste, surtout en première période. Donc le Real en ressort renforcé. Je peux vous dire, pour avoir discuté avec lui, que Zidane aurait bien aimé gagner. Il pensait mériter gagner, mais qu'il est quand même très content de l'attitude de son équipe. Et donc voilà, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le grand Real de Zidane est de retour et qu'il sera un adversaire très compliqué pour tout le monde en Liga et pour tout le monde en Ligue des Champions.
Juste à propos de la possession, on l'a vu déjà face à la Real Sociedad, le Barça qui était dominé lors de cette rencontre qui s'est terminée sur le score de 2-2. Une autre question, Fred, quand on parle du Real, bien sûr, il a donné l'impression d'être supérieur. Ça a été le cas face à l'Atlético, face à Valencia, face au Barça et contre le Paris Saint-Germain. Et à chaque fois, le Real n'a pas manqué. On a vu, bien sûr, Zidane, il a dit que les occasions sont là, les intentions, l'intensité, peut-être un peu de chance qui manque, ou plutôt c'est une équipe qui bloque face au grand pour l'instant, Fred?
Pour l'instant, et je peux vous dire que Karim Benzema a beaucoup regretté l'absence d'Eden Hazard, qui est blessé, parce qu'il est sûr qu'il aurait pu avoir de meilleures occasions de but si Hazard avait été là. Oui, c'est vrai, le football, c'est ce que disait Casemiro à la fin de cette rencontre. Le football, c'est marquer des buts, et le Real n'en a pas marqué. Mais je pense que la sensation, elle est quand même très, très positive. Les supporters du Real Madrid vous diront que le Real Madrid a fait les quatre plus gros déplacements cette saison, c'est-à-dire à Séville, ils ont gagné, à l'Atlético, au Wanda, ils ont fait match nul, à Valence, ils ont fait match nul, et au Camp Nou, ils ont fait match nul. Donc aucune défaite lors des quatre plus difficiles déplacements de la saison, ça veut dire quelque chose quand même.
Mais le Barça va recevoir le Real Madrid au stade de Santiago Bernabéu. Le Barça au Bernabéu est plus fort apparemment.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Zidane, par exemple, n'a jamais perdu au Camp Nou. Trois matchs nuls de victoires. Et on se souvient de victoires assez régulières de cette équipe du Barça à Bernabéu, notamment le fameux 3-2 lors de la victoire du Real en 2016-2017 en Liga, où Messi avait marqué le but du 3-2 à la dernière seconde. Donc oui, le Barça... Mais oui, ce Barça-là, aujourd'hui, pose question. Et je pense que, sincèrement, moi qui ai souvent défendu Ernesto Valverde, j'ai vu un entraîneur soulagé d'avoir fait match nul. Et puis, on peut revenir aussi sur les pénaltys non sifflés. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, sincèrement, on va m'accuser d'être pro-Real, mais je pense qu'il suffit d'avoir deux yeux, ou même un œil, pour se rendre compte qu'il y a deux pénaltys sur Varane qui ne sont pas sifflés, notamment celui de l'Anglais où il se prend une semelle sur la cuisse. On voit les traces de crampons sur la cuisse de Varane, la cuisse droite. Les images sont claires et le VAR ne dit à l'arbitre qu'il y a rien à siffler, quoi. C'est hallucinant. Donc c'est le Real aussi, certes n'a pas gagné.
C'est peut-être aussi, pardon, Fred, pour équilibrer le jour à la dernière seconde, le Barça. C'était bien sûr, c'était lors du match face à la Real Sociedad et les Catalans s'étaient plaints que l'arbitre n'a pas eu recours. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que Zidane, pendant la conférence de presse, à plusieurs reprises, on l'a relancé sur cette histoire, mais il n'a pas voulu. Il a dit l'arbitre n'a pas voulu et moi je ne vais pas répondre sur cette question. Le match est fini et c'est tout, ça s'arrête là.
Mais il est comme ça, mon Zizou, que veux-tu? Mais non, c'est pas le genre à chercher des excuses, quoi. C'est tout, quoi. Non, lui, ça l'énerve. Il en pense pas moins, mais
bien sûr.
Il va pas entrer dans la polémique. Je peux vous assurer qu'il en pense pas moins, mais il va pas entrer dans la polémique. Il veut pas. Il ne joue pas les matchs en dehors du terrain, sincèrement.
On va demander rapidement à Aurélien et après on revient vers l'Espagne parce qu'il y a quand même cette dernière journée avant les vacances. Bilbao, c'est intéressant. Enfin, la tradition, même si l'équipe basque eh bien, souffre souvent au Bernabéu. Aurélien, rapidement, avant de parler du Mondial des clubs, vous avez suivi, j'imagine, le Classico. Une impression rapidement?
Je suis assez d'accord avec ce que dit Frédéric. Hein. Le Real aurait dû gagner cette rencontre et l'aurait certainement remporté si Eden Hazard avait été là. Parce que moi, je suis aussi le destin des anciens joueurs de Première Ligue dans les autres championnats. Et c'est vrai qu'il a manqué peut-être cette petite touche de génie supplémentaire à cette équipe du Real pour se débarrasser du Barça. Moi, j'ai trouvé le Barça assez décevant. Alors, c'est une question pour Fred. Peut-être que l'absence d'Arthur a peut-être joué aussi. Je les ai trouvés en difficulté au milieu de terrain. Je ne sais pas si ça, selon toi, Fred, ça a pu jouer.
Bousquet, il y a quand même quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a eu l'annonce officielle du 11 du Barça avec Busquets dans l'équipe. Et comme par hasard, quand le Real a annoncé son équipe, le Barça a changé et a mis Busquets sur le banc en invoquant un petit peu de fièvre. Et en même temps, vous avez l'entraîneur Valverde qui dit « bon, il n'avait pas non plus 45 de fièvre ». Donc non, le Barça a pris peur quand il a vu que le Real joue avec un milieu en losange, avec quatre joueurs et Isco à la pointe de ce losange. Et le Barça a essayé de changer son milieu, mais ça ne met pas Busquets dans une situation très 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 confortable. Après, pour répondre à ta question, mon cher Aurélien, le Barça aujourd'hui se cherche encore au milieu de terrain, et l'âme du Barça depuis tant d'années, c'est le milieu de terrain. Pourquoi le Barça ne fonctionne pas? Parce que Valverde n'a toujours pas trouvé son vrai milieu de terrain.
Et peut-être le vrai milieu de terrain, c'est que Messi recule d'un cran et trouver quelqu'un qui pourrait courir et également défendre. On va essayer d'avancer. On va revenir sur le football espagnol dans un instant. Mais le mondial des clubs, la finale, eh bien, ça sera Liverpool face à l'équipe de Flamengo. Liverpool qui va remporter peut-être la première fois de, de son histoire cette Coupe du Monde. Mais avant cela, il y a une information, on va dire espagnole et anglaise en même temps, c'est Arsenal qui a un nouvel entraîneur. Il s'agit d'Arteta, un technicien espagnol qui était l'adjoint de Guardiola à City et qui va prendre en main l'équipe d'Arsenal. Aurélien d'abord et ensuite Fred à propos d'Arteta.
Oui, alors c'était dans les tuyaux hein, quand même depuis quelques jours. On le savait que Arteta, c'était le premier choix d'Arsenal pour remplacer Unai Emery. Donc on va continuer à parler espagnol du côté des Gunners. Mais c'est vrai que c'est une personnalité qui est intéressante, Arteta, hein, parce que il a vraiment la double culture et même la double nationalité, hein, espagnole et britannique, puisqu'il a obtenu un passeport. Oui, alors oui, tout à fait, mais enfin, il n'est pas resté longtemps à Paris, malheureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'il aurait fait du bien à l'époque. Mais oui, il a la nationalité britannique depuis 2010, et puis c'est un entraîneur désormais qui connaît très très bien le foot anglais. Il a joué 6 ans à Everton, 5 ans à Arsenal, il a toujours été titulaire, il était quand même élu le meilleur milieu de terrain d'Angleterre, je crois, en 2007. Donc en tant que joueur, il a fait largement ses preuves. En tant qu'entraîneur, évidemment, on ne peut pas en dire grand-chose parce que pour l'instant, il était adjoint de Guardiola. Mais apparemment, il est tenu en très haute estime par Guardiola et par les joueurs de City qui louent notamment sa capacité analytique de comprendre ce qui pose problème dans un match. Alors, est-ce que c'est de ça dont Arsenal a besoin? Sans doute, parce que Arsenal a quand même des grosses difficultés tactiques depuis le début de saison. Mais je pense qu'Arsenal aussi a besoin d'un leader comme peut l'être Jürgen Klopp, comme peut l'être Guardiola ou comme peut l'être Mourinho. Et je ne sais pas si Arteta a pour l'instant ce leadership-là, cette espèce de personnalité qui fait qu'il va pouvoir à la fois remettre en route tous ces joueurs expérimentés d'Arsenal qu'on sent complètement à la dérive, et puis donner assez de confiance à tous ces jeunes joueurs pleins de talent que possèdent les Gunners et qui ont besoin d'être un peu rassurés pour trouver les moyens d'aller gagner des matchs quand ils peuvent les gagner, ce qui n'est pas toujours le cas depuis quelques semaines. Donc voilà, donc il y a quand même des doutes qui persistent autour d'Arteta. On va voir ça, alors pas ce week-end, parce qu'il sera encore dans les tribunes, il n'est pas techniquement l'entraîneur là tout de suite d'Arsenal, c'est pas lui qui va diriger l'équipe à Everton, mais bon, pour lui ça va être intéressant, puisqu'il a joué en effet très longtemps à Everton, et donc pour son premier match quand même, officiel en tant qu'entraîneur, aller là-bas, c'est forcément très symbolique pour lui.
Voilà donc pour Aurélien, Arteta, Fred, en tant que joueur déjà, quand il est joué, on le voyait, il avait la tête d'un futur entraîneur. Est-ce que c'est la même conception que Guardiola?
Je ne sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il est plus anglais qu'espagnol, quoi. Voilà. Tu me dis Rafa Benitez, Rafa Benitez, ça t'a... Bon, vraiment, je prends pas le meilleur, mais enfin, c'est un entraîneur espagnol. Arteta, il est parti il y a tellement longtemps qu'on, c'est un petit peu, c'est pas comme Roberto Martinez, mais presque. Ce sont des gens qui ont triomphé plutôt en Angleterre plutôt qu'en Espagne, quoi. Donc, on peut pas dire que ce soit vraiment un représentant de la culture espagnole, quoi. Après, bien entendu, on n'est pas entraîneur adjoint de Guardiola sans être influencé par son style, mais je vais pas vous dire que vu d'Espagne, on considère que c'est un événement extraordinaire d'avoir Arteta, voilà, surtout qu'il y avait Unai Emery, lui est un vrai entraîneur espagnol. Arteta, il est quand même très anglais vu d'Espagne.
Voilà, donc en plus,
si je peux rebondir sur ce que dit Fred, en plus Arteta a une vraie histoire d'amour manquée avec l'Espagne. Déjà, premièrement, parce que ses expériences espagnoles, que ça soit à Barcelone, parce qu'il a quand même fait sa post-formation à Barcelone dans les années 90, début des années 2000, ou à la Real Sociedad, où il était revenu pour se relancer un petit peu, pour essayer d'aller en équipe senior d'Espagne, parce qu'il jouait au Glasgow Rangers et il espérait être en équipe nationale. Il n'y arrivait pas parce que c'était l'Écosse et que personne ne regardait le championnat écossais. Ça ne s'est pas bien passé à la Real Sociedad. Et derrière, il n'a pas une seule sélection en équipe nationale, ce qui est incroyable. Non. Parce que ben, c'était un très très bon joueur. Le problème, c'est qu'il n'est pas né à la bonne époque. Il est arrivé en plein Xavi, Iniesta, etc. Et que ben,
bien sûr,
finalement,
oui.
A jamais eu sa chance en équipe d'Espagne, alors que c'était quand même un joueur de très grande qualité. Hein. Moi, je l'ai vu jouer à Paris, à Everton,
bien
à Arsenal.
Bien sûr.
C'était un super joueur, mais voilà, pas la bonne génération. Et du coup, bah voilà, il a ce rapport à l'Espagne un petit peu en effet contrasté, qui fait que bah, il a tenté le coup d'ailleurs, hein, parce que quand en 2010 il prend la nationalité britannique, c'est pour peut-être avoir la possibilité de jouer en équipe nationale anglaise. Et en fait non, parce qu'il avait eu des sélections en espoir et ça lui a barré la route de la sélection nationale anglaise.
D'ailleurs, Arsène Wenger n'a pas tari d'éloge à propos d'Arteta. On reste dans le football anglais avec cette Coupe du Monde, le Mondial des clubs qui se déroule actuellement au Qatar. Flamengo, face à l'équipe de Liverpool. Dans la deuxième partie, on parlera de ce Mondial des clubs qui est dominé par les clubs européens. Ce sera avec Hervé Penaud. Mais Liverpool a déjà raté cette édition par le passé face au même adversaire brésilien, Aurélien.
Oui, alors ça date un peu, hein. C'était en 1981 et c'était pas encore la Coupe du Monde des clubs en tant que telle, puisque c'était la Coupe Intercontinentale, on appelait ça comme ça à l'époque, et Liverpool qui était champion ou double champion d'Europe en titre, je me rappelle plus s'ils avaient enchaîné ces années-là, mais en tout cas c'était fait fesser par Flamengo, ça jouait au Japon à l'époque, à Tokyo, il s'était fait vraiment... Liverpool s'était fait humilier par les Brésiliens qui étaient à l'époque menés par le grand Zico et avaient vraiment pris une leçon de foot à l'époque. Alors là, c'est pas le même Flamengo en face, mais c'est quand même une équipe qui est intéressante. Et puis il faut voir qu'en demi-finale contre Monterrey, Liverpool a eu beaucoup de difficultés. C'était très compliqué contre les Mexicains. Donc attention aux Brésiliens, attention à cette finale de Coupe du Monde des clubs. Elle n'est pas déjà gagnée pour Liverpool. Il va falloir quand même être très sérieux pour ne pas revivre la même désillusion qu'il y a 38 ans.
Voilà donc pour ce Mondial des clubs. Merci beaucoup Aurélien de Vernois, notre monsieur football anglais. On va essayer d'avancer
merci
rapidement.
Les amis.
Merci, bonne soirée.
Salut.
Et Fred, le week-end, c'est intéressant parce qu'on le sait, les deux équipes, le Real et le Barça, sont toujours à égalité. Les deux équipes se partagent la première place. Et le week-end, eh bien, à la baisse pour le Barça, qui sera privé de sa jeune pépite qui s'est blessée et qui ne sera
Soufati.
Voilà, Soufati. Et également le Real Madrid qui affronte l'Athletic Bilbao, Fred.
Oui, alors c'est vrai que c'est un classique, hein, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, parce que, je le répète souvent, mais je pense que c'est important de le dire, Bilbao est avec le Real et le Barça, le seul club qui n'est jamais descendu en deuxième division. Ils ont eu un peu chaud l'an dernier, à la même époque, ils étaient dans les fins fonds du classement, et voilà, c'est une équipe qui, cette saison, va beaucoup mieux. C'est jamais facile de jouer contre Bilbao, même si c'est quand même une équipe beaucoup plus forte à domicile contre le Real qu'au Santiago Bernabéu. Donc, avec l'état dans lequel se trouvent les Madrilènes, cette puissance collective, le sentiment que c'est reparti pour un tour avec Zidane, je pense que le Real Madrid devrait l'emporter. Après, le Barça contre Alavés à domicile, ça devrait passer là aussi. Mais on en a parlé, le Barça semble une équipe fragile et tout le monde peut marquer des buts au Camp Nou en ce moment, donc à part le Real, mais parce que c'est un match un peu particulier, mais quand on voit que même Mallorca a réussi à marquer deux buts hein, lors de cette défaite 5-2, voilà, il n'y a pas cette sûreté chez les Catalans qu'on pouvait encore ressentir il y a quelques années.
Voilà pour le football espagnol. Merci beaucoup Fred Hermel à Madrid.
Merci
et on se retrouve lundi, bien sûr, pour revenir sur le week-end et l'effet marquant du week-end en Espagne. Merci beaucoup Fred, bonne soirée. Et on prend la direction de l'Allemagne rapidement. David Lortolari est avec nous. Bonsoir, bonjour David.
Bonjour Hakim et bonjour à tous.
David, on va essayer de faire rapidement, c'est bientôt la fin de cette première partie, l'enjeu de cette dernière journée de la phase aller, c'est le titre symbolique de champion d'automne. Ça se joue entre deux équipes, eh bien ce n'est ni le Borussia Dortmund ni le Bayern Munich.
Cette fin d'année civile est intéressante dans le championnat d'Allemagne cette année tout particulièrement. D'habitude on considère comme un peu anecdotique et on a bien raison. Fondamentalement le titre de champion d'automne, Herbstmeister, comme on dit en Allemagne. Mais cette année, il est intéressant parce qu'il ne concerne ni le Bayern, ni Dortmund. Ça va se jouer entre le RB Leipzig et le Borussia Mönchengladbach. On peut imaginer que Leipzig ait un avantage parce qu'il est à la maison et qu'il reçoit Augsbourg. Oui, mais Augsbourg est en train de sérieusement se redresser après avoir changé d'entraîneur, avoir été en queue de classement, et il reste sur 2 ou 3 résultats assez euphoriques et de larges victoires. Donc attention pour le RB Leipzig de ne pas se faire surprendre. Et puis de l'autre côté, Borussia Mönchengladbach, alors là on est dans les records, parce que ça faisait 43 ans que le Borussia Mönchengladbach, je dis bien 43 ans, et que le Borussia ne luttait plus pour un titre de champion d'automne. Il a la possibilité donc de le récupérer éventuellement ce week-end. Et puis le Borussia Mönchengladbach, eh bien, il a réussi en 16 rencontres à récupérer 34 points, c'est-à-dire un de plus que sur toute la phase aller de l'année dernière, 33, alors qu'il reste encore un match. Et donc il y a quand même, malgré le dernier revers, il y a quand même cette espèce d'ambiance, de confiance qui s'est installée à Mönchengladbach, et on va vouloir essayer de récupérer ce titre honorifique, mais qui ferait du bien à l'équipe en vue de lutter pour le titre dans les prochains mois, évidemment. Donc vraiment une lutte originale, Leipzig-Mönchengladbach pour le titre de champion d'automne, qui exclut provisoirement sans doute, mais qui exclut pour le moment Bayern et Dortmund.
Merci beaucoup David Lortolari, notre monsieur football allemand. On rappellera que cette semaine, il y avait des matchs, le Bayern a gagné et le Borussia Dortmund, après avoir mené au score 3-1, eh bien, a partagé les points avec l'équipe de Leipzig à l'arrivée, 3-2. C'est la fin de cette première partie de l'avant-match, dans un instant la deuxième. La deuxième partie de l'avant-match tout à l'heure, dont la première, on a parlé du football espagnol avec Frédéric Hermel à Madrid. Nous sommes revenus sur le Classico, bien sûr. Real-Barça, c'était l'autre jour, mercredi au Camp Nou, 0-0 à l'arrivée. Et puis également le week-end, c'est la dernière journée avant les vacances pour les clubs espagnols. Eh bien, le Barça joue à domicile face à Alaves et l'équipe du Real joue face à l'équipe toujours à domicile face à Bilbao. Le football également en Allemagne avec également là, l'enjeu, c'est le titre honorifique de champion d'automne, champion d'hiver, en tout cas la première partie, la phase aller de la Bundesliga. Leipzig et également le Borussia Mönchengladbach sont au coude à coude. Et puis, on l'a fait un crochet par l'Angleterre, l'arrivée d'Arteta à la tête de l'équipe d'Arsenal et également les chances de Liverpool. Demain, en finale de la Coupe du Monde face à Flamengo, ça se passe au Qatar. Et à propos du Qatar, bien entendu, et la Coupe du Monde des clubs, eh bien, nous allons en parler justement dans un instant avec Hervé Penaud, notre monsieur au football africain, français, mondial, universel, tout ce qu'on veut. Bonjour, bonsoir Hervé.
Bonjour Hakim, bonjour les amis, mais quel plaisir d'être en votre compagnie. C'est un plaisir.
Le plaisir renouvelé, vous savez bien. Également, Hervé, très heureux d'avoir Hervé avec nous. Nous allons parler de l'équipe de Pyramide dans un instant. On le sait, Pyramide, c'est l'équipe qui monte en Afrique. C'est une des équipes qui est engagée dans la Coupe de la CAF. Une équipe qui a des ambitions pour emporter le championnat. Mais les deux dernières défaites ont fait que eh bien, les responsables ont décidé de limoger de sabre le technicien français. On va y revenir dans un instant. Le football en France également. Mais d'abord, une question à propos du Mondial des clubs, on le voit. Sur les 12 dernières éditions du Mondial des clubs, eh bien 11 ont été remportées par des clubs européens. Par quoi peut-on expliquer cette mainmise des équipes du vieux continent, Hervé ?
Cette Coupe du Monde des clubs, on a l'impression que c'est finalement une Coupe du Monde des clubs européens, parce que la plupart des vainqueurs, il faut remonter déjà à 2012, la victoire des Corinthians. Sinon, après, ça a été quand même la razzia absolue entre le Bayern, le Real, Barcelone, le Real qui l'a gagné 3 fois de suite. Et là, cette fois-ci, il faut être honnête, même si Liverpool a eu quelques difficultés en demi-finale, hein, puisqu'il s'est imposé qu'à la fin, on a la sensation que Liverpool sera, disons, le grand favori. Maintenant, sait-on jamais, hein, Flamengo peut créer la surprise, mais sera le grand favori. Car en fait, il faut quand même se dire une chose, c'est que le football mondial est quand même centralisé en Europe. Je parle sur la qualité des joueurs, la qualité des équipes, puisque le meilleur joueur argentin, par exemple Lionel Messi, il joue où ? Il joue pas en Argentine, évidemment, mais il joue à Barcelone. Et puis, on peut énumérer un peu tout ça à tous les niveaux. Prenons l'Afrique. Quels sont les meilleurs joueurs africains aujourd'hui? Sadio Mané et Salah, et Mohamed Salah. Où sont Sadio Mané et Mohamed Salah? Ils jouent évidemment en Europe, ils jouent évidemment à Liverpool. Et Naby Keïta, qui est en train de faire, et là il faut un petit mot quand même sur Naby Keïta, après beaucoup de blessures, qui est en train de faire un retour magnifique, hein, avec un nouveau but qui l'a marqué là. Donc ça veut dire que les meilleurs joueurs africains jouent en Europe, les meilleurs Sud-Américains jouent en Europe. Inévitablement, l'argent est en Europe, c'est là où il y a les plus gros salaires, et donc les joueurs s'expatrient de plus en plus tôt. Même on prend des joueurs brésiliens qui arrivent à 18-19 ans et qui peuvent prendre des routes qui étaient inconnues il y a encore quelques années, une dizaine d'années. Je pense par exemple à Shakhtar Donetsk qui peut prendre des joueurs et après ces joueurs-là repartent, peuvent aller par exemple à Manchester, hein, comme Fred ou d'autres, hein, ou Fernandinho, etc. Donc voilà, aujourd'hui le football, le centre du football mondial est évidemment en Europe et voilà pourquoi une telle domination. Mais ça ne veut pas dire, surtout pas dire, qu'il n'est pas possible pour un club non européen de remporter cette Coupe du Monde. C'est rare. Mais, c'est toujours possible. Sur un match, tout est possible. On l'a vu en demi-finale. Il est évident qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand même, ce sont les clubs européens qui dominent ce challenge-là. Alors, ça va être intéressant de voir la future Coupe du Monde des clubs, où là, ce sera un petit peu différent. Il y aura plusieurs clubs de chaque continent, mais j'ai aussi l'impression que ce sera encore une fois dominé par les clubs européens.
Voilà donc pour la domination des équipes européennes dans ce mondial des clubs. Je le disais tout à l'heure, le football africain, pour rappel, dans cette épreuve était représenté par l'Espérance de Tunis, l'Espérance qui a finalement terminé cinquième après avoir perdu lors du premier match. Eh bien, le match de classement, la formation tunisienne a dominé à 7 du Qatar, le représentant du pays organisateur, sur le score de 6-2. Petite consolation pour les champions d'Afrique, l'Espérance qui, pour la troisième participation, eh bien, est éliminée dès le premier tour, dès son entrée en lice. On parle du football africain à présent, Hervé, avant d'évoquer le football en France. Le football africain, on le sait, pyramide, une équipe qui monte en Égypte et en Afrique, bien sûr, et a réussi pas mal de performances, de bons résultats ces derniers temps, mais eh bien, aujourd'hui, on a appris que l'entraîneur Sébastien De Sabre a été démis de ses fonctions en raison des mauvais résultats de défaite seulement.
Oui, Hakim, vous savez, le football égyptien est un football qui change très vite de visage. Alors, vous imaginez Sébastien De Sabre, qui a fait déjà une bonne canne avec l'Ouganda, qui part directement au FC Pyramide, et puis là, au bout de quelques mois, allez, c'est déjà la fin, absolument incroyable. Alors qu'il avait plutôt réussi son entame en Coupe de la Confédération avec ses deux victoires. Mais là, deux défaites en championnat, une septième place qui ne convient pas aux dirigeants. Et allez hop, c'est terminé, on passe à autre chose. On sait que le club est très très ambitieux, a beaucoup d'argent. Et pour eux, il n'y avait pas de souci, il fallait virer De Sabre. Alors là, pour l'instant, c'est un entraîneur local qui va reprendre la succession. Mais on sait très bien que dans peu de temps, ça va être un autre. Vous savez, rien ne vaut quand même Zamalek. Je me suis amusé à faire une petite recherche. Depuis 2015, début 2015, ils ont quand même utilisé 20 entraîneurs. Alors certains sont revenus, hein, on les a vus 2-3 fois, mais 20 entraîneurs pour les Zamalek. Donc voilà, le football égyptien, franchement, quand on veut avoir un peu de la continuité, eh ben c'est très très difficile.
Le Zamalek, Hervé, on le sait, c'est le vainqueur de la dernière coupe de la CAF et le Zamalek a menacé de ne pas disputer la Super Coupe d'Afrique face à l'Espérance. Ça sera au mois de février au Qatar. Un dernier mot sur le football français, mais d'abord on va accueillir notre ami Simone Rovera, notre monsieur football italien. Bonsoir Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. J'attends, comme tous, les nouveaux périodes où sera l'Italie, bien sûr, le monde du football. Pas seulement les équipes européennes, les équipes italiennes.
Italiennes,
c'est ça l'avenir.
À part la Juve, on voit pas une équipe italienne capable de remporter la Ligue des Champions, Simone, sincèrement.
On peut attendre quelques années, ça va arriver.
Mais pour Naples, c'est possible.
En tout cas, faites-moi confiance.
On a vu ces dernières années des équipes comme l'Inter, comme la Roma, peut-être, pourquoi pas, Naples éliminer le Barça en Ligue des Champions. Ce sera difficile.
Moi, je suis plus confiant sur l'Atalanta qui pourrait être la surprise de cette Ligue des Champions. Peut-être, avec un bon tirage en quart de finale, continuer cette aventure. pour Naples, ça va être un peu plus compliqué vu l'état d'esprit et l'état des troupes, on peut dire, des équipes et le nouveau entraîneur. Mais je suis convaincu que cette Ligue des Champions, avec vraiment la Juve très forte et une Atalanta très surprenante, pourrait devenir la Ligue des 100 champions de la nouvelle, du nouveau printemps pour le foot italien.
On va revenir sur le football italien, on va revenir sur la Juve. Sur le but de Cristiano Ronaldo cette semaine et également le record de Buffon, le gardien de la Juve, ça sera dans un instant. Mais d'abord, un dernier mot concernant le football européen en France, une journée de championnat. Mais les regards, eh bien, on va s'intéresser à Monaco et surtout à son entraîneur Hervé.
Ce sera une journée très intéressante car on ne sait pas ce qu'il va advenir, notamment de Jardim. S'il était battu par Lille à Monaco, comme il l'a été en Coupe de la Ligue cette semaine, de plus en plus, il se murmure qu'un départ serait possible avec, vous savez qui peut-être pour le remplacer, Laurent Blanc, l'homme qui n'a pas été choisi pour Lyon. Ce serait magnifique, un gros pied de nez, un magnifique pied de nez quand même à ce qui s'est passé à Lyon. Et puis, ce serait bien pour lui de pouvoir se replonger dans cet univers-là et montrer le potentiel qu'il a. Alors, du côté de Lyon, par contre, ça va être très chaud, un déplacement à Reims qui va être compliqué, très compliqué. On sait maintenant que deux joueurs de Lyon se sont fait les croisés, vous vous rendez compte, c'est un truc terrible, entre Memphis Depay et Reine Adélaïde. Il va manquer du monde, il va falloir bouger au mercato, et ça commence à bouger avec les noms de Zonzi qui arrivent, Gamero, Lemar, enfin, on verra un petit peu tout ce qui va se passer. Et juste un mot sur l'OM pour dire, s'ils battent Nîmes, ils auront fait une magnifique première partie de saison avec André Villas-Boas, qui aurait été un peu l'homme clé de cet OM-là.
Merci beaucoup Hervé Penaud, bonne soirée et à lundi prochain le dernier, on va dire la dernière ligne droite avec Simone Rovera. Je parlais tout à l'heure de la Juve et également de Cristiano Ronaldo et surtout Buffon, le gardien qui a battu un nouveau record, Simone.
Bah, imaginez, il y a des joueurs qui rêvent de débuter en Serie A, de jouer un match pour l'histoire, pour la gloire. Et Gigi Buffon, il est arrivé à 647 matchs joués en Serie A. Premier dans cet classement avec à côté d'une légende, d'un autre monstre de foot italien, Paolo Maldini. Mais bien sûr, Paolo Maldini a arrêté sa carrière depuis une dizaine d'années. Et Gigi Buffon est prêt à devenir les solitaires leaders entre les joueurs qui ont plus de matchs dans les championnats italiens. Il va arriver sûrement à 648 en janvier parce qu'il continue à être important dans les rotations de la Juve. Et bien sûr, ces matchs de Gigi Buffon, où il a cassé un but, mais la Juve a gagné, est rentré dans l'histoire comme rentrera les prochains d'un joueur qui a tout gagné sauf la Ligue des Champions, qui encore aujourd'hui est un exemple pour le jeune footballeur, pour le jeune gardien de but, et qui aujourd'hui reste à être très performant au-delà de ses 42 ans, mais il a encore des records dans sa tête. On sait bien que les joueurs plus âgés à avoir joué en Ligue des Champions, c'est un autre italien, Marco Ballotta, qui avait presque 44 ans. Donc, dans son coin de sa tête, il s'est dit, je veux continuer. Je sais par son entourage qu'il n'exclut pas de continuer encore une saison, au moins il fera un point à la fin de cette saison. Donc Gigi Buffon qui se sent toujours très très jeune dans sa tête mais aussi dans son corps et qui bat encore un record avant de battre un autre et vraiment j'espère un jour qu'il puisse gagner aussi cette Ligue des Champions parce que ce serait qu'on peut dire la fin magnifique d'une carrière extraordinaire.
Simone, un petit mot sur l'Inter de Milan après son élimination à la Ligue des Champions et cette défaite à domicile face au Barça, c'était le 10 de ce mois. Eh bien, 5 jours plus tard, il y a eu ce match nul, on va dire assassin, puisque la Fiorentina a été menée à la marque et la Fiorentina a égalisé à la 92e minute. Du coup, l'Inter a cédé du terrain, a cédé la première place et surtout, on a l'impression que quelque chose s'est déréglé dans cette équipe de Conte.
Bah oui, c'est vrai, c'est exact, parce que il faut savoir une chose, avec Antonio Conte, les joueurs, donnent toujours au-delà de leurs limites, ils poussent en plus à l'entraînement, dans les matchs, ils sont prêts à tout donner. Au final, quand il y a aussi certaines blessures et donc l'effectif est réduit, tout donner semaine après semaine, ou deux fois par semaine, ça devient très fatigant. Et on a vu face à la Fiorentina, cette séquence finale d'un but, où un jeune de la Fiorentina a pris un ballon au moment moitié des terrains. Il a couru pour 50 mètres et aucun joueur de l'Inter arrivait à lui rester derrière. Donc, c'est pour moi une sorte de fatigue physique et aussi mentale.
Simone, pardon, ce genre d'action, on le voyait rarement. En Italie, un joueur courir 40-50 mètres, normalement, à l'arrivée, enfin, à la fin de la rencontre, on joue le score. À la limite, on commet la faute, mais on n'accompagne pas le joueur.
Mais surtout, oui, c'est vrai, mais surtout qu'il y a eu plusieurs joueurs qui pouvaient faire quelque chose de plus, de l'expérience de Godin qui venait de rentrer en fin de rencontre, à Skriniar qui est un peu les joueurs les défenseurs les plus physiques, les plus forts, les plus puissants aussi dans ses appuis, dans ses jambes, du trio défensif de l'Inter. Il y avait aussi le milieu de terrain qui était à côté, donc oui. Jamais on aurait pu imaginer de voir un tel type de but. On peut imaginer une frappe de 30 mètres, une geste technique incroyable, mais pas une joueur qui utilise de la vitesse face, on peut dire, à une équipe presque inexpérimentée, mais qui n'est pas expérimentée, mais ressemblait à ça. Et Antonio Conte était très remonté, mais au final, il est en train de faire une chose un peu à la Mourinho, comme il l'a toujours fait, défendre ses joueurs, trouver un peu des adversaires extérieurs. Et là, c'est une chose que j'aime pas du tout, parce qu'il est en train de trouver des ennemis un peu partout, surtout dans la presse, et demander aujourd'hui des renforts à ses dirigeants pour avoir plus de joueurs à la reprise, parce qu'il y a un match demain, mais bientôt il y aura la reprise avec probablement de nouveaux arrivés pour le mercato, parce que c'est évident, cet Inter est en train de perdre beaucoup d'énergie, il a vraiment les réservoirs presque vides, et heureusement qu'il y a la trêve là-bas et qu'il y a un adversaire un peu simple sur les papiers comme les Génois, parce que sinon cet Inter risquerait de détruire en quelques semaines tout ce qu'il a fait des très très bons dans toute la première partie des saisons.
Rapidement, une minute, justement, quand on voit ce qui se passe à l'Inter, heureusement que bon, c'est la fin de l'année, et on a l'impression que la seule équipe qui était capable de rivaliser avec la Juve, c'est l'Inter, et là, l'équipe est en train de perdre du terrain.
Oui, surtout parce que la Juve est en train de récupérer du terrain, ou quand même est en train de récupérer certains joueurs clés. Cristiano Ronaldo, qui redevient décisive avec 6 buts en 5 matchs. Les dernières, tout le monde en a parlé, avec cette déteinte incroyable qui montre ses qualités physiques, comme s'il était un joueur de 20 ans et pas des 34. Avec une Juve qui trouve en formule très offensive avec ses trios Dybala, Higuaín et Cristiano. Donc on peut dire que la Juve retrouve des titulaires quand l'Inter perd des titulaires face au Genoa. Je disais match simple sur le papier, mais Lautaro Martinez et Brozovic sont suspendus, donc pas de Barella, pas de Sensi, pas de Gagliardini, pas de Asamoah, c'est encore un doute, pas de Alexis Sanchez. Par contre, la Juve se retrouve aujourd'hui avec un Rabiot qui fait 4 matchs titulaires d'affilée, il est plutôt bon, Betancourt qui devient indispensable, même après avoir perdu des joueurs comme Khedira pour blessure ou Douglas Costa pour plusieurs semaines. Donc, il y a une différence totale aujourd'hui d'état d'âme et d'effectif entre les deux équipes, et si quelque chose ne change pas en janvier, ou si l'Inter n'arrive pas à trouver des ressources nouvelles avec des jeunes, je crois que la longue route pour les titres viendra une des deux équipes prendre un avantage important déjà dans les prochains matchs, donc entre janvier et février.
Merci beaucoup Simone Rovira, notre consultant pour le football italien, et à lundi. Merci également à Abdelrahim Mala à la réalisation, nos auditeurs. Ciao. Excellent début de soirée à l'écoute de Média.